Moi, je suis pasteur à Louvain-la-Neuve. On a implanté la nouvelle église à Louvain-la-Neuve en 2020. J'étais avant pasteur assistant à Woluwe. Et on est reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il fait à Louvain-la-Neuve. Donc voilà, 5-6 ans, on a vécu. Et merci Seigneur, on est 30-35 adultes le dimanche matin. On s'est réunis au centre de Louvain-la-Neuve, à l'hôtel, dans un hôtel au centre-ville. Si vous voulez venir nous voir, ce serait vraiment avec grand plaisir. On a des gens de tous les âges. Louvain-la-Neuve, c'est une ville universitaire. Donc on a des jeunes, mais on a des moins jeunes aussi. On a un peu tous les âges. Et donc c'est réjouissant de voir ce que le Seigneur fait. C'est, voilà, on aimerait que plus de personnes se tournent vers le Seigneur. Ça, c'est notre prière. Si vous pouvez prier que le Seigneur touche le cœur des habitants de Louvain-la-Neuve, afin qu'ils découvrent l'Évangile et placent leur confiance en lui. Un sujet de prière, peut-être, on a une semaine d'évangélisation pour les enfants le 6 au 10 juillet. On fait un stage pour les enfants, donc de 9h à 16h, pour les parents qui cherchent des solutions pour leurs enfants durant les grandes vacances. Et on fera des enseignements bibliques sur les évangiles et bricolage, atelier cuisine, jeux, chansons, etc. Tout le reste. Donc, merci de prier pour cela, que les parents, surtout les parents non chrétiens, puissent nous faire confiance pour inscrire les enfants et que les enfants viennent et entendent le message de l'Évangile. Et peut-être les parents, après, viendront à l'Église. C'est ça notre prière. Mais merci beaucoup. Nous allons prier et puis nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble pour nous mettre à l'écoute de notre Seigneur. Prions. Notre Père, nous te louons parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Merci parce que dans ta parole, dans la Bible, tu nous parles. Quel privilège d'être là ce matin pour entendre la voix du Dieu vivant et vrai. Donne-nous des cœurs bien disposés à ta parole. Éloigne de nous des distractions. Et Seigneur, que tu nous fasses grâce, que tu nous fasses du bien par ta parole ce matin. Transforme nos cœurs, transforme nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons lire dans l'Évangile de Luc. Si vous pouvez trouver l'Évangile de Luc dans une Bible, ça serait génial. Chapitre 10 et les versets 38 à 42. L'Évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, c'est dans la deuxième moitié de la Bible, si la Bible est nouvelle pour vous. Après Matthieu, Marc, Luc, chapitre 10, les versets 38 à 42. Et je vais lire ces versets. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus et ses disciples, Jésus entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Mais Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Jusqu'à là, la lecture. Donc, si on peut garder cela ouvert sous nos yeux, ce serait super utile pour suivre. Alors, est-ce que vous avez déjà joué au Pictionary? Est-ce que vous avez déjà joué au Pictionary? Est-ce que vous savez ce que c'est? Voilà, le principe, c'est simple. On a un mot d'un objet et on doit dessiner cela et faire deviner à notre équipe, sans utiliser notre bouche ou les paroles, juste dessiner ce que c'est et faire deviner à notre équipe. Franchement, c'est galère. C'est pas simple. Je ne sais pas si vous êtes fort en dessin. Mais dessiner quelque chose qui ressemble à la réalité et faire deviner l'équipe, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais imaginons qu'on jouait à Pictionary et il fallait dessiner un chrétien, un croyant en Jésus. Qu'est-ce que tu dessinerais pour faire deviner à ton équipe? C'est quoi un chrétien. Ou si la description c'était la vie d'un chrétien, qu'est-ce que tu dessinerais pour décrire la vie d'un croyant en Jésus? Comment pourrais-tu faire cela? Comment tu pourrais résumer toute la vie chrétienne dans un dessin? Mais peut-être on peut comparer les idées après. Si on en a qui sont doués en dessin, vous pouvez nous montrer. Mais la question pour ce matin, c'est qu'est-ce qui caractérise l'essence du fait d'être chrétien? Qu'est-ce qui est au cœur de la vie chrétienne? Quelle est notre façon fondamentale d'interagir avec le Dieu qui nous aime et qui nous a sauvés en Jésus? Bien sûr, on peut vivre toutes sortes d'émotions dans notre vie chrétienne, des hauts, des bas, des découragements, des encouragements. Je ne sais pas où vous en êtes personnellement, mais je ne parle pas vraiment de ces hauts et bas. Mais qu'est-ce qui caractérise l'essence même de notre relation avec le Seigneur? Dans ce passage que nous avons lu, nous rencontrons, mais Jésus rencontre deux femmes qui ont chacune une attitude fondamentalement différente l'une de l'autre envers Jésus. Deux attitudes fondamentalement différentes. Jésus va dire à l'une d'elles, « Tu as choisi la bonne part, bravo. » Il va dire à l'autre, « Tu devrais imiter ta sœur, tu devrais avoir l'attitude qu'a ta sœur. » Et je pense que ce qu'on va voir va nous parler ce matin. Que nous soyons croyants de longue date, ou que nous soyons fraîchement convertis à la foi, ou que nous soyons en recherche ce matin. Bienvenue à vous si c'est le cas, si vous êtes nouveau. Mais pour poser un peu de contexte, ici dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 9 et le verset 51, c'est un moment tournant dans l'évangile de Luc. Nous lisons dans ce verset que Jésus prend la ferme résolution de se diriger vers Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il voulait aller à Jérusalem? Pour faire une chose, pour mourir à la croix, pour les rebelles comme moi et comme vous, pour nous réconcilier à Dieu. Et dans cet évangile, Luc, qui est médecin, il a interviewé tous les témoins oculaires, tous les gens qui ont vu Jésus, qui ont parlé avec Jésus, et il a mis le récit par écrit dans son évangile. Il dit au début de l'évangile qu'il l'a rédigé pour un certain Théophile, qui n'était pas juif, mais qui est devenu chrétien, croyant en Jésus-Christ. Il voulait donner à Théophile des certitudes dans sa foi, qu'il soit plus certain de ce qu'il croit. Et c'est ça ce que Dieu veut nous donner aussi, des certitudes concernant Jésus, concernant notre foi en lui. Et donc voyons de plus près ce qui se passe ici, la rencontre avec les deux femmes. Revenons au verset 38, si vous avez ça sous les yeux. Le verset 38, chapitre 10. « Pendant qu'ils étaient en route, Jésus et ses disciples, en route vers Jérusalem, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. » Ici, Jésus décide de s'arrêter en chemin. Je pense qu'on fait ça souvent. Je ne sais pas si vous roulez parfois de longue distance. Est-ce que vous roulez de longue distance? Est-ce que vous avez envie juste de vous arrêter, de vous poser, de souffler un petit peu? Si vous avez des enfants bas âge, vous savez ce que c'est de rouler en voiture. Ou peut-être si vous avez une voiture électrique ces jours-ci, il faut s'arrêter de temps en temps parce qu'on n'arrive pas à dépasser les 200 km sans devoir charger la voiture. Mais Jésus ici, en route vers Jérusalem, il s'arrête chez des amis. Quoi de mieux que de s'arrêter chez des amis? On sait à partir de l'évangile de Jean que Jésus connaissait bien cette famille. Lazare, le frère, et Marthe et Marie, deux sœurs, de bons amis de Jésus. Et on voit que Marthe, elle reçoit Jésus, verset 38, dans sa maison. C'est un bon début, recevoir Jésus dans sa maison. Mais Marthe n'était pas seule à la maison, elle avait une sœur. Et on apprend ce qu'elle faisait, cette sœur, dans le verset 39. Verset 39. Marthe avait une sœur appelée Marie. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qui s'assit aux pieds du Seigneur Jésus et qui écoutait sa parole. Donc Marie est assise aux pieds du Seigneur, en position de disciple, en train de savourer tout ce que Jésus lui dit, en train d'écouter attentivement toutes les paroles de Dieu venu sur terre. C'est ça ce que Marie fait. Mais est-ce que Marthe fait de même? Est-ce qu'elles sont là toutes les deux en train d'écouter Jésus? Non, verset 40. Mais Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint, elle dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Mais je pense, en lisant ce récit, on compatit avec Marthe, non? Elle a des invités à la maison, elle court à droite et à gauche pour s'assurer que tout soit prêt. Peut-être elle a deux, trois casseroles en même temps en train de remuer. Il y a des trucs qui crament en dessous. Elle met quelque chose dans le four. Elle a des enfants à gérer. Peut-être elle a les lits à préparer. Et sa sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Elle est juste là, assise devant Jésus. Elle ne fait rien. Et ça énerve Marthe. Vous avez vu ça, verset 40, ça l'énerve. Elle vient vers Jésus. Elle dit, Jésus, ça ne te dérange pas qu'elle ne fait rien et moi je suis là, je fais tout seul. Elle ne lève pas le petit doigt pour m'aider, mais dis-lui au moins de m'aider un tout petit peu. Elle ne fait rien là. Et Jésus répond. Au verset 41. C'est une réponse surprenante, je pense. Je pense qu'on imagine que Jésus va dire, oui, c'est vrai, allez, Marie, dans la cuisine. Mais qu'est-ce qu'elle dit? 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. On entend la tendresse dans la voix de Jésus lorsqu'il dit Marthe, Marthe. Il n'est pas fâché avec Marthe. C'est un peu comme lorsqu'il dit Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler dans mes bras, mais vous ne l'avez pas voulu. Il est plein de tendresse envers Marthe. Marthe, Marthe. Mais tu dois comprendre que c'est Marie qui a choisi la bonne part. C'est elle qui a la bonne attitude vis-à-vis de moi. Ce n'est pas l'attitude que tu as qu'il faut, c'est l'attitude de ta sœur. Jésus dit, il y a une seule chose qui est nécessaire. Une seule chose qui est nécessaire dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Si nous, on devait expliquer ça à quelqu'un d'autre, une seule chose qui est nécessaire dans la vie chrétienne, qu'est-ce que tu dirais? Jésus dit que c'est être assis à ses pieds en train d'écouter sa parole. Ça, c'est la seule chose qui est nécessaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire, pour nous, si nous sommes croyants en Jésus? Certains ont vu dans cette histoire un appel à rejeter le rythme effréné de la vie pour vivre une vie plus calme, plus sereine, plus à l'écoute des gens, etc. Est-ce qu'on doit juste être plus zen dans la vie et faire moins de choses? Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas le message. Est-ce que c'est où je dois arrêter de servir dans l'église et juste lire la Bible tout le temps? Est-ce que c'est ça ce que je devrais faire? Acheter un t-shirt qui dit « je ne peux pas ». Je suis en train de lire ma Bible. Est-ce que c'est ça le message de ce passage? Non, je ne pense pas non plus. Mais en fait, Marthe et Marie représentent deux façons de réagir face à Dieu. Si on demandait à Marthe et à Marie de dessiner le dessin Pictionary de la vie chrétienne, il y aurait deux dessins très différents. Pour comment nous pouvons entrer en relation avec Dieu et pour comment on continue. Mais voyons d'abord comment entrer en relation avec Dieu pour voir l'attitude qu'il faut. Quelle est l'approche qu'il faut pour entrer en relation avec Dieu, pour être sauvé? Est-ce que c'est Marthe? Qu'est-ce qu'elle fait dans le verset 40? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est absorbée par les nombreux soucis du service. Elle est affairée à faire 10 000 choses. Et elle pense que c'est ça la clé de sa relation avec Jésus. C'est intéressant parce que dans ce texte, il est marqué que Marthe est en train de servir Jésus. Verset 40, elle était absorbée par les nombreux soucis du service. C'est le mot diaconia. C'est un bon mot pour servir. C'est bien ce qu'elle fait. Elle sert Jésus. Et lorsqu'elle dit à Jésus, « Tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour... » Qu'est-ce qu'elle dit? Pour servir. Elle est en train de servir Jésus. Elle fait 10 000 choses pour Jésus. Est-ce que c'est comme ça qu'on entre en relation avec Dieu? Parfois, on peut penser ça. On peut penser que c'est « si je fais suffisamment de choses... » Ben alors Dieu doit être content avec moi. Si je fais assez à l'église, mais d'office, lorsque je meurs, je serai au paradis. Il va dire, bravo, c'est bien, tu as assez fait, tu peux entrer. Souvent, on tombe dans ce piège-là, de penser que c'est sur base de combien de choses que nous avons faites que nous pouvons entrer en relation avec Jésus. Mais en fait, Jésus veut nous enseigner à travers cette rencontre que ce n'est pas l'attitude de Marthe qu'il faut adopter pour entrer au ciel, c'est l'attitude de Marie. Qu'est-ce que Marie, elle fait? Dans un sens, elle ne fait rien pour contribuer, pour servir Jésus, elle ne fait rien. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit. Elle reçoit la parole de Jésus. Elle est assise à ses pieds, en train d'écouter sa parole, la parole de l'Évangile. Et c'est ça ce que nous devons faire. Jésus dit qu'il est venu dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour proclamer une année de grâce. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à cela? Est-ce que nous devons faire 10 000 choses? Avoir un CV spirituel super impressionnant? Non. Nous devons simplement recevoir, écouter la bonne nouvelle et y croire. Dire, moi je suis pécheur, j'ai besoin de ta grâce, pardonne-moi. C'est tout ce que nous devons faire. Être assis au pied de Jésus en train de bénéficier de l'évangile de sa grâce. Il nous dit, je suis mort pour toi, pour te délivrer de toutes tes fautes. Accepte mon sacrifice et tu auras la vie éternelle. Et nous, assis à ses pieds, nous disons, « Waouh, merci, je reçois ta grâce. Humblement, je ne t'offre rien, je reçois comme le cadeau de la grâce. » Une seule chose est nécessaire, c'est d'être assis en train de recevoir la grâce de la parole de l'Évangile de Jésus. C'est pourquoi Jésus ne réprimande pas Marie. Il ne dit pas, il est l'heure pour toi de bouger et d'aider ta sœur. Non, il dit, tu as choisi la bonne part. Tu es l'exemple de comment on entre en relation avec moi. Et c'est exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Nous mettre à l'écoute de l'évangile de sa grâce. Pas essayer d'impressionner Dieu par nos bonnes actions. Non, de dire, Seigneur, merci pour l'évangile. Merci pour ta grâce. C'est ce que nous faisons dans la Sainte-Seine. Nous recevons les mains vides ce que Christ a fait pour nous. pour nous. C'est ainsi qu'on peut entrer dans une relation avec Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu avait prévu, promis, même dans l'Ancien Testament. Si vous avez vos Bibles, on va faire un saut dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, c'est un prophète dans l'Ancien Testament, plus ou moins au milieu, Ésaïe 66 à la fin de ce livre. Ésaïe 66. Désolé, je n'ai pas le numéro de page, mais votre voisin peut peut-être vous aider à trouver cela. Ésaïe chapitre 66. Et c'est dans le contexte, Dieu est en train de promettre qu'il va amener une nouvelle création. Une toute nouvelle création. Un jour, le Sauveur va revenir, il y aura une nouvelle création. Tous les problèmes d'aujourd'hui, toutes les frustrations, etc., il n'y aura plus. Plus de mort, plus de souffrance, plus de deuil, plus de désespoir. Et comment est-ce qu'on est censé réagir à cela, Ésaïe chapitre 66, comment est-ce qu'on est censé réagir à cette promesse? Est-ce que c'est en faisant 10 000 choses pour Dieu? Mais c'est ça ce que le peuple pense, verset 1. Le peuple pense, on va construire un temple pour Dieu. On va faire quelque chose de super spirituel, de religieux, on va construire un temple pour Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu pense de cela? Ésaïe 66, verset 1. « Ainsi par l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu serait celui de mon repos? Toutes ces choses, ma main les a faites. Elles sont toutes venues alors à l'existence, oracle de l'Éternel. » Donc on a la promesse de la vie éternelle. Qu'est-ce que nous on doit faire? Est-ce qu'on doit faire des choses religieuses? Non. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Verset 2, au milieu, il dit, « Oracle de l'Éternel, voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu et qui fait quoi? Qui tremble à ma parole. » Si Dieu nous fait la promesse de l'Évangile, qu'est-ce que nous devons faire? Fais 10 000 choses pour l'impressionner, fais des trucs... Non! Trembler à sa parole. Écoutez ce qu'il nous dit. Avoir un esprit abattu en nous-mêmes, dans le sens qu'on sait qu'on est pécheur, on ne peut rien offrir à Dieu, on doit juste recevoir la parole de sa grâce. Et donc nous tremblons à sa parole, nous acceptons ce qu'il nous dit dans l'Évangile. Donc peut-être juste un mot pour vous, si vous êtes là en visite ou si vous êtes là par tradition ou vous êtes là dans une optique de vouloir faire 10 000 choses pour Jésus. En fait, vous n'êtes jamais passé par la case de dire « je dois accepter d'abord la grâce de Jésus, le pardon qu'il m'offre. » C'est ainsi que je peux démarrer une relation avec Dieu. Pas en faisant des trucs, mais en recevant, en écoutant sa parole et en croyant. Ce n'est pas en faisant des veillées de prière, beaucoup jeûner, ou qu'on devient disciple de Jésus-Christ. Non, c'est écouter la parole de sa grâce. C'est l'annonce qu'il a tout accompli. On ne doit rien ajouter, rien contribuer. Il nous donne tout, par pure grâce. Il éponge notre dette à la croix afin qu'on soit libéré de nos péchés. C'est le miracle de la grâce. Amen. Alléluia. Donc Marie nous donne l'exemple, la posture à adopter pour entrer en relation avec Dieu, mais aussi pour grandir dans notre relation avec Dieu. Peut-être que nous sommes déjà croyants en Jésus-Christ, mais en fait, Marie, c'est l'exemple à suivre pour nous, pour grandir en Jésus. Je pense qu'on voit le danger d'être comme Marthe pour ce qui est de devenir chrétien. On peut penser qu'il faut faire 10 000 choses pour devenir chrétien. Ce n'est pas ça. Il faut recevoir la grâce et écouter la parole de Jésus. Mais est-ce qu'on ne court pas tous le danger dans la vie chrétienne d'être plus comme Marthe que Marie? Est-ce qu'on ne se voit pas en Marthe? Toujours en train de faire des choses pour Jésus, ou imaginez que le plus important dans ma relation avec Jésus, c'est des choses que je fais pour lui, au lieu de penser la plus importante, la chose la plus importante, c'est recevoir et écouter sa parole. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est comme Marthe? Comment est-ce qu'on peut savoir? Mais voyez le verset 41. Jésus dit, le Seigneur lui répondit, ça, pardon, on est de nouveau dans l'évangile de Luc là, l'évangile de Luc chapitre 10, de nouveau c'était un voyage aller-retour, désolé si on n'avait pas pris le billet pour le retour. Revenant en Luc 10, on voit que Jésus dit, verset 41, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Est-ce que ça nous décrit dans notre vie? Est-ce qu'on est en train de courir à droite et à gauche? Est-ce qu'on est inquiet? Est-ce qu'on est agité dans la vie? Je pense que pour la plupart d'entre nous, on va dire oui à cela. Oui à cela. Et est-ce qu'une raison pour cela pourrait être qu'on n'a pas compris l'essentiel de la vie chrétienne? Peut-être on court à droite et à gauche, on fait 10 000 trucs et on est stressé comme pas possible parce qu'on a oublié que la chose essentielle, ce n'est pas les choses que nous faisons pour Dieu, mais c'est plus d'entendre sa parole de la grâce dans l'évangile et dans la parole. C'est ça, la chose essentielle. Mais souvent, on est absorbé par les nombreux soucis du service. C'est un peu comme essayer de parler avec quelqu'un qui est sur son téléphone en train de scroller. Est-ce que vous avez essayé de faire ça? Parler à quelqu'un, vous essayez d'avoir une conversation avec la personne, mais la personne a déjà sorti son téléphone et est en train de scroller. Est-ce que vous arrivez à avoir une conversation avec cette personne? Non, pas vraiment. Mais souvent, c'est ce que nous, on fait à Dieu. Nous, on est occupés par 10 000 choses. Dieu est venu parler dans sa parole, mais on est absorbé par les nombreux soucis du service. Et bien sûr, il y a des choses que nous devons faire dans la vie, absolument. Il y a le boulot, il y a le loyer à payer, il y a les courses à faire, il y a peut-être des enfants, des petits-enfants, il y a plein de choses que nous devons faire. Mais est-ce qu'on oublie que la chose essentielle, c'est d'être assis aux pieds de Jésus, en train d'écouter sa parole. Et si nous avons cette chose-là en place, mais tout le reste peut découler de cela comme des moyens de servir le Maître qui nous a sauvés par grâce. Ce n'est pas des choses qu'on fait pour essayer d'impressionner Dieu ou de peur de décevoir Dieu. Non, on le fait à la lumière de la grâce qu'il nous offre. En Jésus, une seule chose est nécessaire. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas avant tout les choses que nous faisons pour Dieu. C'est recevoir sa parole. C'est recevoir sa grâce dans l'Évangile. Mais la deuxième chose qui nous montre qu'on est un peu comme Marthe, quelle est son attitude vis-à-vis de sa sœur dans le verset 40? Quelle est son attitude vis-à-vis de sa sœur? N'est-elle pas dans la frustration, dans le jugement des autres, Marthe? Et est-ce que ça ne nous arrive pas non plus d'être dans le jugement des autres? Peut-être on se dit, mais les autres ne font pas assez. Moi, je suis là tout le temps, moi, je fais tout ici à l'église, mais il y a des autres qui ne font rien. Et on est frustré, visiblement peut-être, ou peut-être invisiblement, mais c'est dans le cœur. Mais est-ce que ça ne nous montre pas qu'on est plus comme Marthe que Marie? On a oublié ce qui est l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas les choses que nous pouvons faire pour les autres. L'essentiel, c'est de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. D'écouter attentivement ce que le Seigneur nous dit. Et ce n'est pas pour dire qu'on ne va pas servir ou on ne va rien faire. En fait, il se peut que lorsqu'on met cette chose essentielle en place, lorsqu'on lit davantage la parole de Dieu, on sera davantage motivé pour servir de la bonne façon, avec des bonnes motivations. Ce n'est pas pour dire que je ne dois pas servir et je dois juste méditer. Non, la méditation de la parole va nous pousser à servir les autres. Mais attention, si nous sommes en train de courir à droite à gauche, sans faire ce qui est essentiel, sans nous mettre à l'écoute de la parole de Jésus. Parce que parfois, nous, on pense à lire la Bible, c'est une chose en plus que je dois ajouter à ma vie déjà bien chargée. On doit se lever tôt pour le boulot, il y a un trajet avec les bouchons, je fais des horaires pas possibles, et ensuite il y a des enfants, il y a les devoirs, il y a nanani, nanana. J'ai ma vie bien chargée, j'essaie d'ajouter la Bible à cela, et franchement, c'est pas facile. Un peu comme si on est en train de jongler de différentes balles dans la vie, et quelqu'un nous dit, « Eh tiens, tu dois lire la Bible en plus de cela. Oh, comment est-ce que je vais faire pour ajouter cela dans ma vie déjà chargée ?» Mais en fait, on devrait réfléchir autrement. On n'a pas 10 000 balles à garder dans l'air. On a une chose qui est nécessaire. Une chose qui est nécessaire, c'est l'attitude de Marie, assise au pied du Seigneur, en train d'écouter sa parole. Ça, c'est la chose qui est nécessaire. Et tout le reste découle de cela. Donc ce n'est pas une chose à ajouter en plus dans notre vie chargée, c'est la chose essentielle. La chose essentielle. Et le reste découle de cela. Mais comment peut-on faire cela dans le concret? Comment est-ce qu'on peut méditer la parole? Mais déjà, en église, c'est super de dire le dimanche, je viens, peu importe ce qu'il y a, je viens, je suis là pour être assis au pied du Seigneur, pour recevoir sa parole de la grâce. Et de voir l'Église avant tout, pas comme, ah, j'ai des choses à faire, j'ai des tâches à faire, mais j'écoute la parole du Seigneur. Et il m'équipe pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire à l'Église, avec joie. Donc, on le fait en Église. On vient pour entendre la parole de Dieu. Et on le fait, on peut venir à l'étude biblique. C'est un super moyen d'être encouragé, de dire, ah oui, je prends du temps pour être assis au pied du maître en semaine. On a besoin d'encouragement en semaine. Et on peut le faire tout seul aussi. Est-ce que vous méditez la parole tout seul? Peut-être certains, vous êtes déjà bien rodés dans la méditation de la parole ou vous avez l'envie, mais dans la pratique, c'est compliqué. Et je pense qu'on peut tous dire « Amen » à cela. C'est compliqué de trouver le temps pour ouvrir la parole et la méditer. Mais je pense déjà, si on change d'optique, si on pense « Ah, ce n'est pas une chose que je devrais faire, mais je n'ai pas vraiment envie de faire, mais bon, je devrais le faire pour méditer. » Mais si on change cette optique-là, on dit « Waouh, c'est la chose nécessaire, la seule chose, la bonne part, Jésus dit. Aujourd'hui, c'est d'écouter la voix de mon maître. » Quelqu'un m'a dit une fois que ce serait super si le matin, la première voix qu'on entendait, avant toutes les autres voix, qui viennent souvent par ça, mais par d'autres moyens aussi, que la première voix qu'on entend le matin sera celle de Jésus dans sa parole. Et j'essaie de mettre ça en pratique, même si c'est à une courte période, quelques versets, « Seigneur, parle-moi, fais-moi du bien par ta parole, 5 minutes. » 10 minutes, dans le train, dans le tram, dans le métro, de méditer la parole. Je sais qu'il y a des ressources qui aident, mais vous avez le bon livre juste à côté, il y a le site web Tout pour sa gloire, si vous connaissez ce site web qui peut vous envoyer un mail le matin pour vous donner un passage, c'est un chapitre par jour, et avec des petites questions pour méditer cela. Je conseille plus que le verset du jour. Parfois on fait le verset du jour, mais si on veut être comme Marie, assis, en train de se délecter de la parole de Jésus, oh, je pense qu'on pourrait faire mieux que le verset du jour. Je pense qu'on pourrait se mettre à l'écoute de plusieurs versets de la parole de notre Sauveur. Il y a un très bon livre qui s'appelle « De gloire en gloire », qui est du même monsieur qui a écrit « Doux et humble de cœur », si vous avez lu « Doux et humble de cœur ». Et dans ce livre-là, il dit que lire la Bible, c'est un peu comme... Respirez, respirez. C'est tellement essentiel à notre vie, tellement essentiel à notre vie chrétienne, à notre survie, à notre épanouissement. C'est juste normal, on entend la parole et on lit et on médite. Profitez des ressources, demandez après, tiens, qu'est-ce que tu fais pour méditer la parole ? Je n'ai plus l'habitude de faire ça, j'aimerais me relancer. Qu'est-ce que tu pourrais me recommander comme ressource ? Ou trouver quelqu'un d'autre ici en dire, moi j'ai envie de recommencer à méditer. Est-ce qu'on pourrait méditer le même livre ? On prend Colossiens ensemble et on lit quelques versets, on s'envoie des messages pour s'encourager à être comme Marie, assis aux pieds de Jésus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour être comme Marie, pour faire la chose essentielle. La chose essentielle, une seule chose est nécessaire, dit Jésus. Pour devenir chrétien, ce n'est pas les choses que je fais qui comptent, c'est la parole de l'Évangile qui compte. Et pour grandir dans la vie chrétienne, une seule chose est nécessaire, être assis aux pieds de Jésus. Donc, je pense qu'on est tous confrontés à notre péché dans ce passage. On est tous conscients de notre faiblesse et on est comme Marthe. Mais écoutez la tendresse de la voix de Jésus à votre égard. Marthe, Marthe. Robbie, Robbie. Il veut vous encourager. Il veut vous encourager. Il veut vous parler. Il veut que vous entendiez la parole de sa grâce. Et que ça soit pour nous la chose essentielle, la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Pas une chose en plus d'ajouter à notre vie bien chargée, mais la chose essentielle. Écouter la parole de la grâce et croire l'Évangile pour devenir chrétien et pour grandir en Christ. Mais que le Seigneur nous aide tous à faire comme Marie. Une seule chose est nécessaire, de choisir la bonne part. Il ne lui sera jamais ôté. Prions que nous puissions vivre cela avec l'aide du Seigneur. Notre Père, nous voulons te louer pour ton évangile. Merci parce que être en relation avec toi, ce n'est pas une question de faire 10 000 choses. Ce n'est pas une question d'être absorbé par les soucis du service. Mais c'est une affaire de s'asseoir simplement aux pieds de notre Maître Jésus et écouter sa parole. Merci pour sa parole de la grâce. Merci pour son œuvre à la croix. Merci pour sa mort, sa résurrection. Merci parce qu'il a tout accompli et nous devons simplement y croire. Quel repos pour nos âmes, Seigneur. Et nous prions que nous puissions faire comme Marie, nous asseoir aux pieds de Jésus, jour après jour. Que tu nous donnes de viser cette chose qui est nécessaire, la seule chose qui est nécessaire. Méditer ta parole, la grâce. Et que tout notre service, tout notre dévouement envers toi puisse découler de la voix de Jésus qu'on entend et qui nous fait tellement de bien. Et nous, Seigneur, si on a perdu un peu l'habitude de méditer ta parole ou si on a perdu la joie de cela, renouvelle notre joie d'entendre ta parole de la grâce et que cette église soit une église comme Marie, assise au pied de Jésus, en train d'écouter sa voix. Et nous te le demandons en son nom. Amen.